Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu en direct du Salon des éditions libertaires à Lyon. Et donc, on continue toujours encore notre direct. Et en fait, on va faire un petit tour du côté de Toulouse. Parce que le Salon des éditions libertaires de Lyon, ben, y a du monde de partout. Et que hier, on a parlé du CIRA de Marseille, de Genève, pardon.
De Lausanne.
Oui, j'ai fait une... inversion. Et donc aujourd'hui, on va découvrir le CRAS, on va découvrir une maison d'édition et puis je vous laisse
Et l'infocus.
Attends, je te passe la parole,
Fab, dois... Alors dans l'ordre d'apparition autour de la table et en partant de là-bas, vous allez donc vous présenter un par un donc qui c'est qu'on a autour de la table?
Mais moi c'est Juanito Marcos des éditions Le Coquelicot de Toulouse. Il paraît que ça s'entend quand je parle.
Ouais, un petit peu. Ça fait du bien.
Non, c'est notre maison d'édition. Elle date depuis une dizaine d'années. Maintenant, on a fait 13 ou 14 titres qu'on a publiés. Et pour la plupart, c'est des traductions de livres espagnols. Et qui traitent pratiquement tous sur la période des guerres d'Espagne, l'exil. Et voilà, les camps, enfin, et l'exil, quoi. Hein, voilà.
D'accord. Ensuite.
Moi, c'est Yves Meunier, j'habite à Saint-Étienne, je suis en fait un transfuge du Coquelicot, je suis l'antenne stéphanoise du Coquelicot, au-dessus de la Loire, quoi, tu vois. Ah
ouais, et ça pousse quand même, les Coquelicots, au-dessus de la
Loire? Ouais, mais il y en a. Et voilà, Ronito a bien présenté la maison d'édition avec notre ligne éditoriale, et bon, on verra plus tard.
Et faut que je fasse court sur le CRAS ou
Ah non, vas-y, t'as le temps.
Bon, ouais. Moi, je suis Jean-Claude du Centre de documentation de recherche sur l'alternative sociale. Donc, c'est un centre qui archive depuis une trentaine d'années tout le mouvement à partir des années 60 sur le mouvement libertaire, les cours anti-léninistes. Et puis voilà, donc on archive brochures, livres, affiches. Et avec aussi des dossiers sur différents thèmes, voilà.
Et
voilà.
Vous êtes affilié à la FICEL?
Oui, on est membre de la FICEL aussi. D'accord. La FICEL, je veux dire.
Bah, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission d'hier, vous irez sur les podcasts et vous trouverez ce que c'est.
On peut peut-être le donner, c'est la Fédération internationale des centres d'études et de documentation libertaire.
Voilà. Et on a un quatrième intervenant.
Oui, salut, moi c'est Jules, donc je fais partie de l'infokiosque d'Arnaud Bernard, donc il y a des quelques quartiers populaires qui restent dans cette pétaudière qui s'appelle Toulouse. C'est, en deux mots, c'est alors on héberge une partie des cartons du CRAS. Non, mais c'est une maison des associations municipales, c'est un infokiosque qui sort à la base d'un squat qui a tenu 12 ans, qui s'appelait le Clin D, qui a fini donc par se faire foutre dehors, et on s'est retrouvé dans une salle municipale, c'est assez marrant. Et donc du coup on distribue journaux, brochures, les bouquins à prix d'éditeur, aussi des films, des graines, etc. On fait pas mal de présentations, de bouquins, d'ouvrages, et une sorte de ciné-club, voilà.
Une sorte de ciné-club?
Ouais, c'est-à-dire régulièrement il y a des films docu ou pas docu, selon les envies des gens qui les passent. Voilà, c'est dans le quartier Arnaud Bernard, dans le centre à Toulouse.
C'est bien. Tout ça en accès libre, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Dans la logique des infokiosques.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Ouais. Non, mais c'est bien de le rappeler, parce que tout le monde ne le sait pas. Alors, je ne sais pas comment on peut procéder. Peut-être parler déjà de la maison d'édition Coquelicot. Et peut-être, j'ai vu que vous avez amené un livre. Alors, je pense que vous voulez le passer dans le micro, le livre.
Enfin, oui, on a essayé, n'est-ce pas? Mais il pèse 1 kilo. Ouais.
Ah ouais. C'est un livre pour s'endormir aussi. C'est, voilà. Ouais. T'as un coup sur la tête et on dort bien, 1 kilo.
C'est pas un livre de plage. Hein.
Alors, et donc, du coup?
Oui, par rapport à la. Donc, pour revenir à la maison d'édition, ce qui nous a. Sur l'Espagne, surtout dans la région toulousaine, hein, et puis le Midi-Pyrénées, tout ça, les Pyrénées, c'est. L'Espagne est très, très connue et très courue, on va dire. Mais ce qui nous a semblé, à un moment donné, c'est que. Par rapport au mouvement libertaire, aux anarcho-syndicalistes espagnols, il y avait des livres qui étaient mis un petit peu à l'index, de côté, quoi. Hein. Et donc, on a publié, ou fait traduire, des livres de ces livres-là. Du coup, il y en a 4, comme ça, 4 personnages. Il y en a 3. Il y a Ponsan, Francisco Ponsan, qui a fait la guerre d'Espagne, et qui ensuite a collaboré dans la résistance, et a collaboré à la création des réseaux de passage de viateurs, tout ça, et qui a été arrêté par les Allemands en 1943 et fusillé en 1944 quand il partait. Quand les Allemands ont quitté la. Ils commençaient à prendre la dérouillée, quoi. Hein, ils sont partis. Ensuite, on a aussi publié le livre de Mera, Cipriano Mera, qui était aussi un anarcho-syndicaliste, bien sûr, madrilène, on va dire de Madrid, qui sort de prison en 1936, puisqu'il était détenu. Puisque le syndicaliste assez détenu, il sort de prison, ils attaquent. Et il reste à Madrid, et lui, il participe à la constitution d'un corps d'armée. Au départ, c'est des milices, mais il considère qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens militaires d'arrêter le fascisme. Donc, il participe à la constitution d'un corps d'armée, ce qui ensuite s'est fait avec la militarisation des milices en Espagne. Il finit chef de ce corps d'armée, le Quinto Cuerpo. Le cinquième corps d'armée à Madrid. Et bon, lui aussi, quand la chute de Madrid en mars 39, il part en Algérie. Il part en Algérie. Il est arrêté par la police, en gros arrêté par la police française et remis aux autorités espagnoles. En 40 ou 41, il se retrouve en Espagne, prisonnier, condamné à mort. Après, sa condamnation à mort est transformé en perpétuité. Bon, et en 1947, il se retrouve exilé en France. Et lui aussi, le fait d'avoir participé à cette militarisation de la milice, des miliciens espagnols à Madrid, il est aussi très mal vu de la CNT orthodoxe qui, à ce moment-là, avait considéré qu'il fallait revenir sur des bases orthodoxes et de rompre toute relation avec les partis de gauche dans lesquels ils avaient collaboré. Ça, c'est le troisième personnage. Et le troisième personnage, c'est García Oliver, c'est aussi une figure emblématique du mouvement libertaire et anarcho-syndical espagnol, qui lui a participé avant 1931 à tous les coups de main qui a pu se jouer, surtout à Barcelone, mais dans l'Espagne entière, contre Los Pistoleros, qu'ils appelaient.
C'est ce qu'on appelait un homme d'action.
Oui, c'est un homme d'action. Il a participé à toutes ces choses-là. Et pendant la guerre, au mois d'octobre 1936, il participe au gouvernement d'Assagne comme ministre de la Justice, avec trois autres ministres aussi de la CNT, la Santé, la Pénitentiaire, je crois, et le quatrième, je ne me souviens pas. Donc, il est ministre pendant 6 mois. Ensuite, il revient un petit peu dans les rangs. Mais le fait d'avoir été ministre, lui aussi, mis à l'index de l'orthodoxie anarcho-syndicaliste ou surtout anarchiste, avec les gens de la faille et tout ça. Voilà, c'est ces histoires-là qu'on a essayé de montrer, quoi. De montrer la diversité qu'il y a, du moins qu'il y a eu en Espagne, hein, sur la diversité de l'analyse et de l'action de ces individus dans un contexte qui, à la limite, je ne sais pas si on peut. Pas non plus, mais trop m'étendre.
Vas-y, vas-y.
Je trop m'étendre parce que la CNT en Espagne, c'était 2 millions d'adhérents. Ils ont eu, quand il y a eu le coup d'État de Franco le 18 juin 1936 et le contre-coup d'État, la CNT a eu le pouvoir partout où l'armée espagnole nationaliste n'a pas pris le pouvoir. Elle a eu le pouvoir partout. Donc ils ont eu un pouvoir, des anarchistes ont eu le pouvoir d'agir sur toutes ces parties, la Valence, Madrid, Barcelone, une partie de l'Aragon, une partie du Pays Basque, un peu le nord d'Espagne, ils avaient tout le pouvoir là. Mais ensuite, les anarchistes confrontés au pouvoir, c'est là où il y a les divergences ont éclaté, sont montrées.
Vas-y, vas-y.
Non. Et donc, je veux dire, par là, l'intérêt qui nous a semblé avec ces livres-là, c'était de montrer que la complexité, en fin de compte, dans laquelle se sont retrouvés ces gens, alors qu'ils partaient tous d'une même idéologie, c'est-à-dire à bas l'État, la fin de l'État, à bas l'armée, enfin la fin de l'armée, et à bas la police, et tout ce qu'on voudra, et ils se sont trouvés ensuite, enfin loi de disparition en tout cas, et ils se sont retrouvés, par exemple en Aragon, ils se sont retrouvés à gérer, ils ont géré une police qu'ils appelaient l'ordre social. Je crois que c'est l'ordre social qu'ils appelaient ouais. Comme ça. Mais c'est une police. Donc ils ont essayé de gérer la prostitution. En fait, tous ces problèmes inhérents à une vie sociale, à laquelle ils n'avaient peut-être pas pensé. Mais ceci dit, ils ont fait face.
En fait, c'est essayer de montrer que confronté au réel, ouais. Bah, c'est pas aussi simple que d'être dans le réflexif pur, quoi.
Voilà. Et c'est ce qui est intéressant, parce que malgré ces difficultés qui étaient énormes, hein, parce qu'après, il faut dire aussi qu'il y avait la guerre en même temps, il y avait toute la partie des républicains bourgeois qui voulaient rétablir une bourgeoisie en Espagne, et qui étaient dans le camp républicain dans lequel ils se trouvaient, il y avait toutes ces confrontations. Malgré cela, les collectivités ont fonctionné. Je veux dire, la mise en place du communisme libertaire dans certaines régions, comme le Levant, enfin Valence et l'Aragon, ça a fonctionné. À Barcelone, ils ont socialisé les usines. Enfin, ils ont socialisé, pas collectivisé, mais ils ont été socialisés. Ça, malgré tout ça, ils sont arrivés à mettre en pratique, moi je pense, le fondement un peu de ce que peut être le mouvement anarcho-syndicaliste. Hein. Pas le mot anarchiste, ça peut être autre chose. Hein. Donc voilà. Et parce qu'il nous a semblé aussi que jusqu'à ces dernières années, ce qu'on pouvait savoir, enfin moi je suis fils espagnol, donc on était. Mais ce qui pouvait se savoir sur la Révolution espagnole était tronqué, il manquait une partie, quoi. Cette partie, confrontation avec la réalité. Et ces gens-là, ces copains-là, qui ont eu, d'une manière peut-être pragmatique, se sont affrontés aux ces contradictions, ont souvent été mis en index parce que ça sortait du cadre qui avait été défini un peu dans cette imagerie,
du côté image d'Épinal, quoi, en fait.
Comme oui, on dit. Voilà.
C'est-à-dire,
ouais.
Voilà.
Ouais, oui. Ce sujet à traiter est un long débat, quoi.
Oui,
non, mais on va peut-être pas le faire dans le quart d'heure qui vient. Voilà.
Et je veux dire, les livres sont mis au débat, je veux dire, c'est pas une question de. C'est pas une position. La seule position que nous, on peut avoir, c'est de mettre. D'apporter ces livres dans le débat. C'est pas une question de prise de position, je crois que chacun, après, sans.
Parce que c'est pas que les bureaucrates de la CNT, les leaders anarchistes qu'on fait la révolution en Espagne. Donc c'est aussi partie de la base. Voilà. Donc, mais c'est, bon, c'est important ce que, le travail qui est mené là.
Mais justement, tu as la parole, alors garde là.
Alors, ouais, pour revenir sur le CRAS, vous m'avez dit que j'avais 3/4 d'heure là. On fait aussi un travail d'édition, enfin, à partir des archives. Donc on avait constitué par exemple un dossier anti-nucléaire, donc ils nous ont permis de, à travers les documents qu'on avait conservés, on a sorti un bouquin qui retrace un peu les luttes anti-nucléaires en France et les différentes formes d'action, voilà, qui ont été menées. Voilà. Et ensuite, on a fait aussi des archives sur le MIL, le Mouvement Ibérique de Libération, ou les GARI. Donc à travers ces trois dossiers, on a sorti 3 ouvrages. Donc on a aussi d'autres dossiers, par exemple la lutte contre le sans-port, ou...
Peut-être préciser le sans-port, de où ?
Le sans-port ?
Ouais, c'est quoi ?
C'est une lutte qui a été menée dans les années 90 contre le tunnel qui est dans les Pyrénées, du côté de l'Oron.
Dans le Béarn.
Dans le Béarn. Le Béarn, vous connaissez le Béarn ?
Le Béarn, c'est une région pyrénéenne.
C'est-à-dire que je pars du principe qu'on en apprend tous les jours. Donc je n'ai pas la prétention, effectivement, de connaître.
Bon, par exemple, on a aussi un dossier qui est assez volumineux sur l'accident, enfin le PET industriel qu'il y a eu à Toulouse, qui est le plus gros attentat qui a été mené dans la région, où il y a eu plus d'une trentaine de morts, des milliers de blessés, et la ville en partie détruite. Donc par exemple, là, on a un gros dossier qui est. Voilà. Donc on n'archive pas que des trucs sur la mouvance révolutionnaire. Donc on élargit. Parce qu'on a aussi, dans cette histoire, on a eu nos appartements détruits, donc on a été concernés. Voilà.
Je précise juste que quand tu dis attentat, c'est pas une thèse complotiste, on parle bien de guerre que l'industrie nous mène. Voilà.
Et donc...
Non mais je fais référence parce que la Dépêche a titré par exemple lors d'une manifestation récente contre le barrage de Sivens, il y a eu quelques affrontements, il y a eu 2-3 abribus qui sont tombés, 2-3 vitrines, enfin quelques banques, enfin que de la casse, et ils ont parlé de villes dévastées, donc ils avaient complètement oublié ce qui s'était passé à ZF. Bon, ensuite, je continue ou quoi ? Non, mais après, bon, pour finir, pour en savoir plus, on a ouvert une vitrine sur Internet. Donc, les gens qui veulent avoir accès, veulent savoir un peu ce qu'on a, enfin, pas en boutique, mais ce qu'on archive. Donc, vous tapez CRAS CRAS 31 et vous arrivez sur le centre de documentation. Donc, ça donnera une idée, voilà, ce qu'on. Et après, moi, ce qui serait intéressant, deux, trois mots, c'est que à Toulouse, il n'y a pas seulement les éditions du Coquelicot, il y a d'autres éditions, des petites éditions. Enfin, je ne peux pas les énumérer, peut-être tu pourras en parler. Il y a aussi des squats, il y a les trois tendances de la CNT, il y a un groupe CGA, enfin bon, il y a différents. Il y a très peu de structures parce que la ville est très chère pour avoir des locaux. Mais voilà, donc il y a aussi pas mal de squats où il y a une vie très, très intense dans voilà, donc voilà, il n'y a pas que les trois trucs qu'on représente ici là, quoi. Donc voilà.
Oui, enfin, quand on ouvre un micro, on n'est jamais représentant, effectivement.
Non, mais c'était pour donner un peu une image.
Et c'est très bien que tu le fasses.
Ouais, donc, que dire de. Enfin, je vais rebondir sur ce. Enfin, je vais continuer, j'aime pas le mot rebondir, pardon. C'est nul, c'est dans les médias. Sur ce que disait Jean-Claude, donc, vous avez compris qu'il y a une histoire sur Toulouse qui est très liée aussi à l'Espagne. Donc, on l'a vu avec le fait que ça a été la capitale de l'exil, tout ça. Et ce que Jean-Claude n'a pas forcément précisé, c'est que dans les bouquins sortis du CRAS, quand on parle du Mille et des Garis, on parle bien de la lutte directe aussi qui tourne autour de l'Espagne, mais là, dans les années 70. Moi, je me suis aussi intéressé au sujet parce que, par exemple, j'ai traduit un bouquin pour Libertalia qui parle du mouvement autonome basque, pour le coup, chez les Basques, mais dans les années 80-90, en sachant que cette espèce d'affrontement permanent avec l'État continue. Et donc, Toulouse a été beaucoup marquée par ça, au moins jusqu'à la fin des années 80, on peut dire. Depuis, si vous voulez, c'est une ville dans laquelle il y a un mouvement d'occupation de l'espace en particulier qui tourne autour du CREA, la campagne pour la réquisition et l'entraide et l'autogestion, qui sont un mélange qu'on a plutôt atypique de, je ne vais pas dire des politiques, mais des gens qui viennent d'une mouvance plus militante, même si militant c'est un gros mot, avec des gens dont les services sociaux ne savent plus quoi foutre. C'est-à-dire des pauvres qui se prennent en main et qui ont réquisitionné. Alors ça fait 4 ans, en gros, que le CREA a commencé ses activités, c'est ça. Ça fait 4 ans, je pense qu'ils en sont à leur 25e squat, tellement ils sont fait virer, rouvert. Hein, ouais, il y a la chapelle aussi. Alors la chapelle, ça vient d'une association plutôt environnementaliste, on va dire. Culturelle et environnementaliste, parce que c'est au secours ma planète. Enfin, non, pardon. Planète en danger, voilà, c'est ça. J'ai oublié le nom au départ. Et ça s'est devenu... Alors c'est une ancienne église. Donc, à part la réverb qu'il y a dans les lieux, il est prouvé donc qu'on peut convertir les églises en des choses intéressantes. Et là, ils sont.
C'est à développer.
Voilà, c'est à développer. On aurait pu faire une piscine aussi, mais là, c'est une salle qui sert donc de lieu de rencontre, de lieu d'événements, mais d'événements un peu sympas, qui est prêté. Que dire, il y a aussi des copains autour d'une imprimerie vieille comme tout qui avait monté en. D'abord un hangar qui a été squatté, qui a été démoli, et ils sont arrivés à faire plier la société immobilière, à reconstruire un hangar dessus, pareil, qui se trouve donc dans les quartiers rive gauche de la Garonne, donc, et qui également sert de pas mal de lieux d'activité politico-culturelle, agito, machin, voilà quoi. Oui, vas-y.
Pour la chapelle, ce que je peux rajouter, c'est que la chapelle, ça fait 20 ans qu'elle est occupée quand même. Hein. C'est une chapelle qui date de 1920, une chapelle privée qui a été redonnée au diocèse ensuite. Bon. Et puis ça fait 20 ans qu'elle a été squattée. Et l'ancienne mairie socialiste avait racheté la chapelle au diocèse. Je ne sais plus combien de sous, je ne sais pas quoi. Avec peut-être le projet, mais ça reste très difficile à savoir, de la pérenniser. Bon, la mairie a perdu, il y a une mairie de droite actuellement à Toulouse qui remet en cause un petit peu ce statut un petit peu, moi je dirais privilégié, mais bon après c'est les interprétations des uns et des autres, qui remet un petit peu ça en cause et donc qui donne l'impression qu'ils veulent bien vraiment la récupérer la chapelle. Doucement, tranquillement, parce que la chapelle c'est un gros truc à Toulouse malgré, bon c'est pas un lieu politique très politisé, mais c'est un lieu très fort quand même au niveau... Ils ont commencé à vider quelques squats à Toulouse et on a l'impression qu'ils sont en train d'encercler la chapelle pour voir comment ils pourraient la liquider. Donc il y a eu un appel une pétition qu'ils ont fait circuler, les gens qui gèrent la chapelle, et ils ont récupéré 4500 signatures. Et avec ces 4500 signatures, ils sont allés discuter avec la mairie en disant, voilà, nous on a ça, et qu'est-ce que vous nous proposez? Et l'affaire n'est pas encore, hein, il n'y a rien de plus, mais voilà.
Et si je peux me permettre, j'aimerais bien rajouter un petit mot sur les radios à Toulouse, parce qu'on a plutôt du bol. C'est plutôt un cas atypique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs radios qui sont réellement indépendantes à Toulouse. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont inféodés de Radio CGT, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui est là sur la Bourse du Travail. Je parle de radios comme Radio Occitanie ou Radio Éphémère ou Radio Radio, qui est d'une excroissance d'éphémère, ou Canal Sud, qui sont des radios qui existent. En tout cas, moi quand je suis arrivé de Macambrousse à Toulouse au début des années 80, on avait un choix sur la bande FM qui était réellement indépendant.
Radio Barberousse, là.
Oui, mais Barberousse, c'est l'ancien nom de Canal. Ça fait 30 ans qu'on est légalisé. Oui, parce que je fais de la radio aussi, cher collègue. Voilà, par exemple, moi, je suis dans une émission anticarcérale qui existe depuis 10 ans. C'est très mal payé. Oui, parce que des fois, il y a du salariat dans cette radio, c'est un débat, on peut en discuter. Voilà, il y a des contrats poubelles. Mais, donc, j'ai fait partie de ces contrats poubelles, entre autres. Mais par exemple, moi, je fais partie d'une émission qui s'appelle Brut Talk, qui est une émission anticarcérale qui existe depuis. Qui elle-même le prolongement d'autres choses qui ont existé avant, mais qui existent depuis une dizaine d'années, tous les jeudis soirs. Bon, après, des émissions plus de chansons, etc. Voilà, quoi. Et on a encore du bol d'avoir ces radios. Je dis ça parce qu'à Lyon, je crois que, à part vous, c'est un peu le désert au niveau des ondes, non?
Oui, mais il y a nous.
Enfin, voilà. Non, mais je voudrais pas vous faire balancer sur les collègues. Mais en plus, si vous voulez.
Éliminer la concurrence, en fait, c'est très fort.
Hein. Si on veut faire un parallèle sur Lyon, en fait, on a la dernière radio associative autogérée sans salariés.
C'est ça. Alors, c'est super que vous n'ayez pas de salariés.
Non, mais c'était pas pour lancer le débat. Spécificité de Radio Canu.
Le truc, si vous voulez, c'est que nous, ça nous arrive de faire des streamings un peu comme vous le faites. Mmh. Et. Oui, ça s'appelle du streaming. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai le temps qu'on est. Et donc, dans ce cas-là, on le fait à deux ou trois radios. Ça arrive souvent. Ça veut dire qu'on est répercuté sur deux trois stations ça, en même bien. Temps. On peut s'associer. Qu'il n'y a pas d'engagement.
On peut vous laisser là, si vous voulez.
Non, mais vous permettez que j'en profite pour dire un petit mot sur les radios.
Mais grave, non, oui, mais voilà. C'est super intéressant avec mutualisation des moyens, etc.
De même qu'on a fait du streaming avec vous, puisque quand il y a eu les concerts contre la prison qui se sont passés à Lyon, nous on répercuté le en direct. Enfin, le quand ça a bien voulu marcher, pas chaque année.
Oui,
depuis Radio Canu, voilà. Donc on se connaît.
Mais maintenant on a appris à faire du streaming, ça marche vachement mieux.
Ouais, mais nous aussi c'est pareil. Au début ça foirait tout le temps. Pour aller justement de la chapelle à l'antenne, c'était il y a quelque chose qui se perdait dans le canal.
Donc du coup on arrive à la fin de cette demi-heure. Comme quoi vous avez réussi à pas trop déborder. C'est surtout parce que je vais vous couper que vous allez pas déborder. Disons-le clairement. Vous êtes les éditions Coquelicot. Vous êtes sur le salon, donc on peut venir vous rencontrer et voir les livres dont on a un peu survolé les éditions. Le CRAS, c'est pareil, vous êtes sur le salon. Alors, est-ce que le CRAS parce que tu parlais des garis, du livre sur les garis que vous avez fait, il est disponible sur le salon? Parce que c'est un livre
tout est disponible.
Voilà, bah, tout est venu sur le salon. Et puis le Faux Kiosque.
Ah ben moi, je suis arrivé juste avec. Alors, je suis aussi parti d'une asso qui s'appelle Promedios, qui diffuse des documentaires mexicains faits par des Mexicains. Et je suis passé avec une petite maison du Tarn parce que l'Infocus en profite pour avoir quelques rapports proches avec des éditeurs locaux. Ah, c'est cool. Donc une maison du Tarn qui s'appelle Les Fondeurs de Briques. C'est un nom bizarre, mais c'était le nom du journal d'un certain Betraven qui s'appelait pas encore Betraven à l'époque où il était à l'époque de la République des Conseils en Bavière dans les années 20. Et des éditions à Azabache qui sont des potes pareil et qui ont fait. On n'en sort pas, qui ont publié des histoires des attentats contre Franco, mais aussi du bagne de Cayenne, et aussi un petit bouquin sur l'autogestion. Voilà. Et on est à côté les uns des autres.
Oui, je veux dire que de toute façon, nous, on ne va pas rester sur Lyon, on va retourner sur Toulouse. Donc, on va vous donner l'adresse du site. C'est lecoquelicot, ça se tient, .info. Voilà.
C'est simple.
On n'oublie pas qu'on peut se procurer aussi les livres à l'antenne stéphanoise.
Oui.
Et autour du collectif de la dérive, si vous connaissez, libertaire.
Tout à fait.
Voilà. Et à la griffe. Voilà.
Et ben voilà, et tout est dit.
Et ben super.
Bon, merci à vous.
Merci à vous. Ne quittez pas l'antenne. Dans quelques minutes, après un peu de musique, un nouveau débat autour d'anarchie et religion. Mmh.